Et Marc, salut les smarts, salut peuple de catch-up, bienvenue dans votre podcast qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau et du slip. Chaque semaine, nous analysons, nous décortiquons, nous encensons et parfois, nous démolissons les shows de la WWE. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour reviewer le Monday Night Raw du 18 janvier 2021 qui se déroule à Saint Petersburg, Florida, USA, dans le Thunderdome au Tropicana Field. Je suis votre dinosaure, que dis-je, je suis votre Luchasaurus des podcasts, je suis votre tonton Chris. Et ce soir, pour votre grand plaisir, c'est une triple frite. Oui, oui, une triple frite pour vous compter le show rouge. En l'occurrence, j'accueille mon très vieux compagnon, l'inarrêtable Papy. Salut Papy.
Bonjour les petits enfants, bonjour tonton, comment ça va?
Eh bien écoute, ça va plutôt pas mal, et toi?
Oh ça, ouais, des frites, c'est bien le lundi là pour commencer Raw, des frites à la cantine, c'est ce qu'il y a de meilleur.
Ah ouais, ouais, avec plein de ketchup et de mayo bien grasse.
Du gras c'est la vie.
Ah tout à fait. Et donc triple frites, comme promis, nous accueillons avec nous pour sa première de l'année 2021, le roi Kyrias. Salut Kyrias.
Salut peuple de ketchup, salut tonton, salut papy.
Ah, ça fait plaisir d'entendre ta grosse voix de basse.
Ben moi aussi, ça fait longtemps.
Ah, alors en plus, je sais qu'il y a tout un tas de gens dans cette équipe qui ont des comptes à régler avec toi. On en parlera à la fin puisque tu as créé
j'ai
un scandale.
J'ai entendu ça, oui.
Tu es conscient que tu as créé un scandale pendant les Awards.
Eh oui, j'ai entendu ça et je compte bien y répondre de manière officielle.
Ah, voilà, ça c'est bien. Eh ouais, ouais, tu as créé de la polémique, tu as créé de la controverse. Et c'est ça qui est bon. Alors, mes amis, cette triple frite, on va la lancer tout de suite maintenant, sans attendre. On va débuter ce Monday Night Raw, qui va débuter lui-même par un récapitulatif de la semaine dernière avec ce qui s'est passé entre Alexa Bliss et Randy Orton. On vous rappelle, Alexa Bliss a jeté une boule de feu sur Randy Orton. Et ce dernier, bah, il est tout simplement backstage, en train de regarder justement les événements de la semaine passée. Et la surprise, c'est qu'il porte un masque qui cache les brûlures terribles qu'il a subies lors du dernier Monday Night Raw. Alors voilà, il va nous expliquer qu'il porte ce masque pour se protéger et pour empêcher que les autres puissent voir toutes les horreurs qu'il a endurées. Bon, il va nous expliquer quand même que c'est que des brûlures au premier degré, donc ça va, et il ne sera pas défiguré à vie, donc tout le monde est quand même rassuré. Mais il nous explique qu'il ne va pas blâmer Alexa Bliss pour ce qui s'est passé, mais c'est lui qui va blâmer, si vous voyez de qui on parle. On parle tout simplement du Fiend, puisque Randy, la vipère, considère que le Fiend est responsable et qu'il se sert d'Alexa Bliss pour obtenir ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, le Fiend, c'est quoi? C'est empêcher Randy Orton d'aller emporter son troisième Royal Rumble. Et donc, il considère, alors à tort ou pas, on va en parler avec nos amis, mais il considère que tout le monde s'est réjoui de le voir brûler et que ainsi, ça va permettre que la plus grande menace se retire du Royal Rumble. Mais pour ça, ça suffira pas. Pour lui, lui, c'est pas un problème. Alors, je l'ai pas expliqué, mais il est avec un espèce de masque tout blanc. Bah, en fait, un masque effectivement qu'on utilise souvent pour les grands brûlés. Donc voilà, il est dans l'obscurité. Il avait toujours des allumettes sur lui, hein, parce que dorénavant, c'est devenu quasiment une gimmick. Voilà. Mais il nous explique que même si la douleur risque d'être insupportable, il aime la douleur. Et donc, il nous assure qu'il va réduire en cendres les rêves du Fiend et qu'il va aller au main event de WrestleMania. Alors, je vais commencer par le bon roi Kyrias. Mon Kyrias, on te prend en route. Qu'est-ce que tu penses un peu, en quelques mots, de cette rivalité là entre Orton et le Fiend qui commence à durer? Et depuis ce fameux match où Randy Orton a foutu le feu au sens littéral du terme au Fiend, et puis bah, finalement de cet opener du Randy Orton dans ce Monday Night Raw.
Eh bien, moi de tout ça, moi, je suis impatient en fait de voir ce qui. C'est un des fils rouges au fil des Raws qui se trame. Cette brûlure, enfin, ce feu sur le personnage et qui est censé revivre on ne sait comment encore, et moi ça m'intéresse de savoir comment il va revivre, et donc je suis bien intéressé par cette histoire. Du coup ça m'intéresse savoir que c'est toujours en cours, bon, même si ça commence un peu à dater maintenant, moi ça m'intéresse toujours.
Ça t'a pas posé de problème de suspension d'incrédulité, l'histoire de la boule de feu d'Alexa Bliss et tout ça?
Ouais, non, on est dans les on joue à le mettre, quoi. Enfin, c'est toujours pareil, ouais. Non, ça m'a pas plu. Enfin, ça, voilà, c'est. On va dire que c'est pour faire enfin, des effets pyro qu'on a pas eu depuis un petit moment. Moi, je suis content toujours de la pyro, donc ça me gêne pas, non.
Voilà, Kyrias est un pyromane, vous le saurez, peuple de Kyrias. Voilà, il met le feu. Alors, mon papy, toi, t'as décidé de mettre le feu ce soir ou pas?
Ah, foutre le feu à cette émission. Non, pas tout de suite en tout cas. Moi, j'ai plutôt bien aimé ce segment d'entrée parce qu'en fait, le fait d'un catcheur qui commence à mettre un masque qui se transforme un peu, moi, tout de suite, ça me botte, quoi. Je me dis, ah, il va avoir un truc, il va se passer des choses, il va se passer du scénario. Et j'ai bien envie de voir, j'aimerais bien que Randerton garde ce masque pour catcher, au moins un certain temps. Ça, on en a parlé sur le Discord, ça m'a fait penser grandement au Dashing Cody Rhodes qui s'était brisé le nez et qui du coup portait un masque et qui avait du coup changé sa personnalité et changé un peu son catch, enfin qui avait tout, un peu tout changé le temps du personnage. J'aimerais vraiment bien que Orton fasse pareil et créer en fait un univers par rapport à ce personnage de grand brûlé. Ça serait vraiment mon kiff.
Donc tu crois que Randy Orton par exemple, il pourrait être susceptible de rester avec ce masque pendant un certain temps?
Ah, je l'espère en tout cas. Moi, j'ai vraiment envie de le voir au Rumble avec le masque.
Moi aussi, oui.
Ah ouais. Bah, tu vois, c'est en parlant là, mais finalement, c'est vrai que j'avais même pas forcément pensé à ça. Et effectivement, il pourrait intégrer le Rumble avec ce masque. Ouais, effectivement, ça serait pas forcément une hésitation.
Un renouvellement. Fort.
Ok. Comment tu
un renouvellement peut-être pour Randy Orton
Ouais, un renouvellement de personnage, effectivement, ouais, pourquoi pas, ouais.
Ça serait bien en plus au contact du Finn que.
Ah, bah écoutez, peuple de catch-up, ça commence avec de l'enthousiasme du côté de la triple frite. C'est plutôt bon
signe.
Ou pas pour la suite. Effectivement, peut-être que ça va pas durer. Bon, d'ailleurs, on va rester backstage, puisqu'on va voir Lacey Evans qui entre dans le Thunderdome, qui est accompagné de Ric Flair. Là-dessus, il y a Kayla Braxton qui va tenter un peu d'en savoir plus sur la relation, si on peut appeler ça comme ça, qui est en train de se nouer entre Ric Flair et Lacey Evans. Voilà, elle demande pourquoi Ric Flair a-t-il décidé de tourner le dos à sa propre fille. Et Lacey Evans, du coup, elle dit à Kayla Braxton qu'elle lui permet pas, elle permet pas en fait à faire de s'expliquer, et elle blâme Kayla du manque de respect qu'elle a envers un homme de 71 ans qui est 16 fois champion du monde, et elle lui rappelle que voilà, qu'il n'a fait que montrer pourquoi il était le dirtiest player in the game. Et que donc elle est là finalement en tant dans l'apprentissage et qu'elle ne fait que qu'apprendre aux côtés du plus grand homme qui ait jamais foulé les pieds sur un ring de la WWE. Alors, on en a déjà parlé un peu la semaine dernière, papy, le retour à mon avis aux grandes dames de Raphaël hier, le retour de Ric Flair avec Lacey Evans à son bras.
Et oui, et on s'en fout. Et voilà. Rien à dire, franchement, non, mais je. Voilà, j'ai... voilà mon avis, c'est ça.
Kyrias, toi, ton avis là-dessus
Papy l'a très bien exprimé déjà. Non, pareil, on s'en fout. Puis Ric Flair, à cet âge-là, c'est très bien qu'ils peuvent encore venir à l'écran, mais je comprends pas. Il a l'air complètement paumé. Non, faut arrêter ça.
Faut arrêter avec ça, du grand classique. Alors du coup, ça nous emmène sur le premier match de la soirée, tout ça, mine de rien, puisque Charlotte Flair va faire son entrée et qu'elle affronte quelqu'un qui est déjà dans le ring, qui n'aura même pas le droit à un titre entrant ou à une entrée, c'est en l'occurrence Peyton Royce. Donc on va avoir droit au premier match de la soirée, un match féminin, un match qui va durer quand même 12 minutes. Alors Charlotte Flair, elle domine largement le combat et on sent qu'elle peut le terminer à tout moment. Mais là-dessus, bien évidemment, Ric Flair va faire son entrée avec Lacey Evans, qui est en cosplay, qui est en clone de Charlotte, puisqu'elle a une grande robe de chambre, version Flair famille, quoi. Hein. Et donc, du coup, voilà le traditionnel truc pour essayer de perturber la Charlotte. Peyton Royce, elle va pas être folle quand même, la guêpe. Elle va essayer de profiter de la situation pour venir coller un super kick. Mais Charlotte, elle est vénère de chez vénère. Et donc, du coup, elle va choper la Peyton Royce et elle va la mettre dans son figure eight leg lock pour faire finalement abandonner Peyton Royce. Malgré la victoire, Charlotte, elle va pas lâcher la prise. Elle va continuer à augmenter la pression à mort sur la Peyton Royce, qui aura bien servi d'exutoire, on va dire, à la Charlotte. Et elle finira par lâcher seulement une fois qu'un second arbitre fera son entrée sur le ring pour calmer un peu la Queen, qui était vraiment, vraiment, vraiment colère, hein, papy.
Ouais, elle était colère. Bah, en fait, c'est en regardant ce match que je me suis dit que tout ce qui nous font chier avec Ric Flair, c'est vraiment... Enfin, bon, on s'en douterait un peu, quoi, mais là, c'est vraiment l'opération remettre Charlotte tout en haut de la division féminine. Donc, elle fait tous les openers, elle a des segments micro avec son papa à rallonge. Enfin, même si là, je crois qu'elle n'a pas parlé du tout de la soirée. Mais voilà, quoi, c'est opération remettre Charlotte tout en haut de la carte. Donc là, 12 minutes, c'est un peu dommage que ce soit Peyton Royce qui doivent jobber pour Charlotte et que ce soit les Evans qui se pavanent pendant ce temps-là. J'aurais préféré peut-être limite l'inverse, encore que au moins les Evans ne catchent pas comme ça. Et puis voilà, quoi. Donc, je vivement que Charlotte retourne en main event et puis qu'elle arrête avec ses histoires pourries.
Toi, Kyria, c'était pour le retour de Charlotte dans le main event féminin ?
Ouais, si. Après, bah, ils cherchent peut-être des solutions pour la faire de temps en temps perdre et grâce à Ric Flair. Mais là, le match, elle l'a gagné celui-là parce qu'elle a tenu. Effectivement, tout le match, elle aurait pu l'éclater en 2 secondes. Parce que Peyton Royce, dans le ring, c'est vraiment pas ça, quoi. À part son qui est retourné, elle a pas grand-chose, hein. Elle a botché pas mal de trucs. Hein.
Ouais.
Non, ça, elle a pas le niveau d'une Charlotte qui est à fond dans ce qu'elle fait. J'ai souvenir d'une prise de soumission faite par Peyton Royce où elle y croyait pas du tout et on voyait Charlotte à côté qui était comme une lionne en cage à côté de ça, qui était censée vendre la soumission. J'ai trouvé ça assez pitoyable.
Ah ouais, effectivement, on est redescendu, on est passé de Orton à Charlotte, là, et là, direct, on est redescendu d'un cran, là.
Ah bah là, c'est surtout pour Peyton Royce, quoi.
Ouais, c'est sûr, ouais. Surtout que Peyton Royce, voilà, c'est ce que je disais, elle a le syndrome de déjà dans le ring, et ça, c'est toujours très très mauvais signe, hein, de toute façon, quand on est déjà dans le ring et qu'on n'a même pas le droit à sa musique. Donc là, je crois que ça sent le pâté pour elle. Bon, après, je sais pas où ça va nous mener, hein, cette histoire avec Charlotte et Rick. Mais comme on l'a déjà signalé la semaine dernière, on en a un peu marre de ça, puisque c'est une énième redite d'un split entre papa et sa fille. Et c'est vrai que ça commence à devenir lourdingue. Et bon, je crois que malheureusement, il va falloir s'y coller, parce qu'on va avoir droit à ça pendant plusieurs semaines dorénavant. Hein.
C'est bien. Le Rumble, c'est vite. Allez, on va croiser
le Rumble, comment ?
Le Rumble arrive vite, on va espérer que ça se termine après.
Ouais, espérons, effectivement. Le Rumble, c'est vrai que ça arrive très très vite, mine de rien, quoi. Allez, on retourne en backstage, vite fait, où on va croiser le Hurt Business qui va croiser lui-même Riddle. Alors bon, voilà, en fait, c'est toujours les mêmes jokes que d'habitude. Voilà, on rigole de la façon de s'habiller de chacun. Les Hurt Business, ils se foutent de la gueule de Riddle parce qu'il est pieds nus et parce qu'il est habillé comme Riddle, quoi. et voilà, donc lui, il va se moquer d'eux, effectivement, mais ça va pas apprécier. Donc du coup, Bobby Lashley, il va demander au mec de s'écarter et il va tenter l'intimidation terrible de Riddle en lui disant qu'il aime bien ses claquettes, mais que ça doit faire mal aux pieds à force. Et il va lui écraser le pied en tapant le sol à peu près à 1m50 du pied de Riddle. Mais Riddle va nous faire un sailing d'anthologie. Et voilà, et d'anthologie, on va le retrouver direct à l'infirmerie avec ses partenaires du soir qui seront d'autres que la Lucha House Party, en l'occurrence Lince Dorado et Grande Metallic. Les deux Mexicains, ils sont un peu inquiets parce qu'ils se demandent s'il va devoir déclarer forfait. Mais Riddle, il les rassure, il leur dit qu'il a l'habitude et que quelques bondages vont suffire. Kyrias, si t'as suivi un peu toute l'affaire, et je pense que tu l'as suivi, Riddle, il a l'air d'être bien lancé sur une rivalité avec Lashley pour le titre US, là.
Oui, bah, il est plutôt mal barré, mais s'il peut capter une partie du public avec lui, pourquoi pas. Mais personnellement, moi, je suis pas du tout avec lui, quoi. Je vois bien Lashley conservé. À part s'il y a d'autres prétendants qui se mettent en jeu.
Ouais, donc tu penses que Riddle serait un challenger de transition, en fait.
Ouais, je vois mal déloger Lashley, oui, dans l'état actuel du business, qui est Gold.
Gold Material.
Gold Material.
Ouais, c'est ça, ouais.
Ouais, c'est pas
non,
faux.
Du coup, Riddle, non, je le vois pas plus devenir champion, enfin, même s'il aurait besoin, parce que ce serait son premier titre.
Ouais.
Et du coup, bon, il est arrivé depuis un petit moment déjà, donc ça serait pas déconnant, mais je le vois pas tout de suite être en l'état d'être un champion plus imposant que Lashley, quoi.
Papy ?
Ouais, j'ai pas trop aimé l'aspect comédie en fait de Riddle là, qui jette par terre la mort puis en jetant un regard noir en disant « Je vengerai, tu verras, attention Lashley !» Bon, c'est pas GG comme segment. Effectivement, j'ai du mal à voir Lashley perdre sa ceinture contre Riddle, même si je trouve que Riddle, c'est pas le repositionner dans la carte, mais Lashley, il est vraiment tellement fort que j'imagine pas trop perdre sa ceinture.
Ok, moi non plus, pareil, je vois pas Lashley actuellement perdre sa ceinture pour le titre US. Riddle me paraît pas présenté, construit assez fort en tout cas. Et ça me paraîtrait quand même très 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 surprenant. Pour l'instant, en plus, rien n'est booké, hein, on sait absolument pas où ça va aller. On n'a toujours pas eu un seul match d'annoncé pour la défense du titre US de Lashley qui commence à posséder le titre depuis un paquet de temps maintenant. Et ouais, je vous rejoins complètement sur cet avis-là. Allez, on continue sur un segment. On va avoir une petite vidéo avec Retribution. Donc Mustafa Ali, le leader du groupe, est là. Il nous explique que Kofi Kingston, il a la mâchoire en vrac et que maintenant qu'il a la mâchoire en vrac, et ben c'est sa volonté qu'il va mettre en vrac en brisant le corps de son poteau, en l'occurrence Xavier Woods. Donc pour rappel, la semaine dernière Xavier Woods avait déjà affronté un membre de Retribution, ça va être à nouveau le cas ce soir puisqu'il va affronter Mace. Mustafa Ali va quand même nous dire qu'il espère que Kingston va pas se remettre vite de sa blessure, parce que pour la bonne et simple raison qu'il espère qu'il va rater le Royal Rumble, comme ça il verra ce que ça fait que de se faire remplacer par quelqu'un au pire des moments. J'ai dit tiens, ça y est, Mustafa Ali se rappelle quand même de ce qui se passait il y a quelques temps, c'est déjà pas mal. Du coup, on a un match entre Mace et Xavier Woods. Alors, ça va être un match quand même très rapide, puisque ça va être un match de 4 minutes. Là, Xavier Woods aura même encore moins de temps, je crois, que la dernière fois face à T-Bar, si je ne me trompe pas. Il va quand même réussir à sortir Mace du ring au bout d'un moment. Il va profiter que Mace se relève sur la pointe pour s'élancer entre ses jambes et pour percuter Mustafa Ali qui était de l'autre côté. Derrière, il va enchaîner avec un dropkick pour faire tomber Mace hors du ring. Mustafa Ali, du coup, il en a un peu ras-le-bol et il demande évidemment à son groupe de faire ce qu'il faut faire. Donc Retribution va entourer le ring, ce qui va déconcentrer terriblement Xavier Woods et qui va permettre à Mace de terminer le match avec son finisher, qui va d'ailleurs complètement foirer, un beau botch ce finisher, c'est un passage. Et du coup, après le match, bah, tout Retribution va monter sur le ring et va adresser un message terrible à Kofi Kingston. Soigne-toi bien. Karius, Retribution, que du bonheur.
Oui, mais il fallait faire ça il y a très longtemps, en fait. Se plaindre de traitement par rapport à Kofi Kingston et faire éclater Xavier Woods, et le faire au début.
Bah oui, ça doit être... Je suis bien d'accord, hein. C'est vrai que ça va faire bien longtemps qu'il aurait dû reparler de ça.
Donc, ouais, donc après le match, le positionnement du finisher, ça le fait pas. Pas sur un finisher quand même, je sais pas. Ouais, non, je sais pas, Papy, qu'est-ce que t'en as pensé, quoi ?
Bah oui, non, mais le peu de temps qu'ils ont Retribution, c'est pour réussir à botcher leur finish. C'est quand même vraiment triste, quoi. C'est. Effectivement, c'est bien qu'ils essaient de raccrocher les wagons avec Kofi Kingston, mais le problème, c'est que là, ils font avec ce qu'ils font avec Xavier Woods, c'est exactement ce qu'ils ont fait avec Ricochet les semaines d'avant, et sauf que ça avait mené à rien. Donc, j'ai vraiment du mal à m'emballer là-dessus. Hein.
Ouais, je vous rejoins encore une fois. Hein. C'est vrai que c'est vraiment compliqué de s'emballer sur un truc pareil. Et puis là, vraiment, en plus, terminer le match de cette manière-là, c'était assez terrifiant. Je sais pas où ils vont aller avec Retribution, mais vraiment, c'est vraiment, voilà, 2020-2021, même combat, j'ai envie de dire, quoi. Allez, on passe à autre chose. On passe au Alexa's Playground. Voilà, c'est Alexa Bliss qui nous accueille dans le ring. Et cette fois, c'est pas pour parler véritablement de Randy Orton, même si elle va se moquer un peu de lui en se transformant en conseillère en cosmétique et en lui expliquant qu'elle a de très bonnes crèmes solaires si jamais il a besoin. Mais elle va enchaîner et elle va nous parler de son adversaire du soir. Elle va nous parler de la championne de Raw, en l'occurrence Asuka. Asuka fait son entrée. Elle va vouloir s'asseoir sur la balançoire, mais Alexa lui dit que c'est pas un siège et elle va se mettre à parler à la planche vide de la balançoire. Voilà, elle va parler à son ami imaginaire. Asuka qui a l'air un peu plutôt mal à l'aise, quoi, va se mettre un peu sur le côté du ring. Et pendant ce temps, Alexa va en profiter pour nous faire une première annonce, puisqu'elle va nous annoncer qu'elle entre officiellement dans le Royal Rumble match. Du coup, Asuka, elle est plutôt bonne joueuse, elle va lui souhaiter bonne chance, mais du coup, Alexa lui dit « Ouais, ok, bonne chance, mais si jamais je gagne, je te rappelle que voilà, on fera face l'une à l'autre à WrestleMania. » Et Asuka, encore une fois, elle reste assez souriante, assez zen, ça n'a pas l'air de lui poser trop de problèmes. Elle va se mettre à danser sur sa musique, et ça va pas plaire du tout à Alexa, qui va lui gueuler dessus en lui disant d'arrêter tout de suite, quoi. Elle va se remettre à reparler à sa planche en bois, quoi. Et elle nous dit d'un air mystérieux que tout ça ne serait jamais arrivé s'il était là. Mais alors, qui est là? Du coup, Asuka, elle va essayer de la rassurer, elle va dire que bah voilà, peut-être qu'il est encore là, mais du coup, Alexa, elle la regarde méchamment et elle lui interdit d'évoquer son nom. Ça rappelle quelqu'un, tiens, à qui on avait interdit d'évoquer son nom. Du coup, Asuka, elle va s'en aller et Alexa va sourire un peu béatement en venant s'installer sur un cheval à bascule qui était à côté et qui se met à bouger tout seul. Ouh là là, quelle peur de voir ce cheval en bois bouger tout seul. Alors papy, est-ce que tu as peur de bouger sur un cheval en bois qui bouge tout seul?
Oui, y a plein de choses qui bougent tout seul. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non, mais j'ai plus peur en fait de la qualité du jeu des filles sur segment. C'était un petit peu longué, j'ai trouvé. Du coup, c'était quand ça commence à être long, c'est là où on se rend compte que c'est pas des vraies actrices non plus. Donc du coup, c'est pas forcément super bien joué. Donc je pense qu'on capte pas tout de suite toutes les subtilités, tout ça. Je pense qu'en fait, ce que Alexa Bliss voulait faire passer comme message, c'est que la balançoire est occupée et donc que c'est pour ça qu'elle ne peut pas s'asseoir dessus, Asuka. Mais bon, c'est du catch, hein. C'est de la comédie à la truelle, quoi. Donc forcément, c'est jamais vraiment très fin. Mais bon, voilà, ça remplit un peu le truc. Mais je pense qu'ils font un peu trop de comédie là pour le coup.
Kyrias.
Ouais, bah le truc c'est qu'Asuka, elle est très très bien dans le ring, mais sur le segment micro, faut pas lui faire trop long, quoi. Et là, c'était un peu le cas aussi. Enfin, j'ai trouvé que c'était un petit peu longué. Après, le développement de l'histoire est plutôt bien, quoi. L'entrée au Rumble. Et puis, on a un match de prévu entre les deux le soir qui est annoncé, non?
Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, c'est annoncé.
Donc, plutôt hypé pour le main event, du coup, voir ce que ça donne.
Ouais, donc, surtout que c'est un retour d'Alexa en catcheuse, hein, parce que ça fait un bail qu'on n'a pas vu Alexa catcher. Hein.
Ouais. Donc,
elle avait catché contre Nikki Cross. Quand Nikki Cross avait catché, mais depuis, je crois.
Ah ouais, non, elle est absente entre les cordes depuis un sacré moment. En fait, depuis qu'elle est impliquée avec le Fiend, on la voyait quasiment plus catcher du tout, quoi. Et donc, moi, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça y est, on a un retour dans la division féminine d'une fille quand même importante au sein du main roster. Donc moi je suis plutôt satisfait de ça. Je considère que c'est bien qu'elle soit en fait remise sur les rails, quoi. Donc c'est bien. Après, Kyrias, du coup, on n'a pas ton avis sur voilà. Est-ce que justement, qu'est-ce que tu as pensé de cette arrivée d'Alexa Bliss dans l'univers du Fiend?
Ah, c'est très réussi. C'est une des réussites de la fin de l'année là et de ce début d'année 2021. Pour moi, je suis à fond dedans, même si c'est toujours un peu désuet quelque part, mais non, j'apprécie plutôt l'affiliation dans l'univers, justement, parce que j'ai aimé dans ce segment, c'est l'entrée dans l'univers du film d'Alexa Bliss et d'Asuka, du coup, qui essaie de se mettre dedans, et c'était rigolo, quoi.
Ouais, c'est vrai que du coup, ils impliquent pas mal de monde, hein, quand tu vois, voilà, le fait d'avoir maintenant t'as Randy Orton, maintenant t'as Asuka qui est intégrée dans le truc. Donc moi, je trouve qu'ils font quand même des efforts au niveau storyline. Et puis voilà, moi surtout, ma satisfaction, c'est de revoir Alexa Bliss dans le ring et comme ça, voir un peu comment elle va se positionner. Et puis, ça grossit un peu le roster au niveau des filles parce que c'est toujours un peu compliqué. On va le voir tout de suite d'ailleurs dans la suite des événements parce qu'avant, on aura juste un tout petit segment en coulisses avec Morrison et Miz qui vont être interviewés par Sarah Schreiber. Et les deux parlent à Goldberg en lui disant de bien regarder ce qui va suivre plus tard parce qu'il va y avoir de la controverse. Mais ça, on va y revenir plus tard. En attendant, on retrouve Shayna Baszler qui explique à Nia Jax qu'elle y croit comme jamais et qu'elle va éliminer tout le monde dans le Royal Rumble, y compris Nia. Alors la Samoane, elle est un peu étonnée, quoi, parce qu'elle pensait que, bah, voilà, que Shayna, elle allait la laisser gagner. Donc Nia Jax, je crois qu'elle est complètement aux fraises, elle a oublié qu'elle faisait du catch, et qu'au Royal Rumble, il n'y a pas de sentiment, quoi. Il n'y a pas de cupping qui compte, quoi. Et donc du coup, Shayna Baszler, elle, pendant ce temps, bah, elle bosse, quoi, et elle va aller dans le ring, accompagnée par Nia Jax, elle va affronter Mandy Rose, accompagnée de Dana Brooke. Alors, waouh, ouf, un match qui va durer 3 minutes 44, hein, encore une fois, un truc expéditif. Mandy Rose va essayer un peu de s'en sortir comme à son habitude. Alors la semaine dernière, je lui avais pour une fois donné un bon point en disant qu'elle avait réussi enfin son e-strike qui est foiré. Mais là, du coup, elle nous a foiré. Alors là, elle nous a fait des air coups de coude. Elle nous a fait un saut écarté foutu, complètement pérave. Enfin bon, voilà, du festival à la Mandy Rose, quoi, qui a bien mérité mon flop des awards. Et du coup, Shayna Baszler, elle va finalement s'attaquer particulièrement au bras de Mandy Rose, qui va essayer d'offrir une résistance comme elle peut, mais ça ne suffira pas, parce qu'au bout d'un moment, Shayna Baszler, elle va enfin réussir à choper ce fameux bras, le lui retourner, la planter dans le ring, et elle va terminer son match traditionnellement avec un Kirifuda Clutch. Derrière, en coulisses, Baszler et Jax vont dire qu'elles ne sont peut-être pas sur la même longueur d'onde, mais que Asuka et Charlotte Flair ne le sont pas non plus, et que du coup, elles sont prêtes pour un rematch. Mon papy, t'as vu, Shayna et Nia, elles ont retrouvé la mémoire ce soir.
Bah ouais, mais bon, c'est pas... Je sais pas ce qui... Enfin, là, on est vraiment, tu sais, dans cette période du Rumble où t'es obligé de montrer un peu tout le monde et puis du coup, bah, tu lances pas vraiment d'histoire parce que bah, il faut que tout le monde reste fort pour le Rumble et donc du coup, bah, tu refais segment, semaine après semaine, les mêmes segments. Quasiment les mêmes histoires. Tu fais tu simules de la dissension entre les personnes. Je sais pas quoi dire d'autre. Elle parle de dissension entre Asuka et Charlotte, mais non, de toute façon, Asuka et Charlotte, elles font chacune leur vie de leur côté. Il n'y a pas de tension, il n'y a rien en fait. Il n'y a plus de division tag team, il n'y a plus de championne par équipe. Elles n'existent plus depuis qu'elles ont pris le titre. Donc, je sais pas, je vivant leur bubble en fait. Tu vois, ça, c'est le genre de truc qui dure et qui du coup bah plus ça dure moins d'intérêt alors qu'en plus de base Mandy Rose et Shayna Baszler c'est tu vois pas folichon alors en plus semaine après semaine ça commence à être dur hein.
Carias, la tag team division féminine, ça t'inspire?
Bah, elle est plutôt inexistante donc oui c'est tant mieux si elle se rappelle qu'il y a des titres et qu'elle veut combattre pour ça mais ouais non c'est du même avis que papy, c'est un peu le reproche qu'on peut faire à tout l'épisode en entier, je pense, cette période post-Rumble. C'est un poil vide au niveau des histoires, quoi.
Ouais, c'est vrai que je suis assez d'accord avec ça, hein. C'est vrai que c'est un peu le néant, quoi. Et puis en plus, moi, un des problèmes aussi, c'est qu'on ne voit pas d'autres équipes pointer à l'horizon, quoi. Et on se dit, bah voilà, tout. Alors déjà qu'il ne se passe pas grand-chose dans cette division, mais en plus, tout tourne autour des quatre filles-là, et puis basta, quoi. Parce que, je veux dire, même Mandy Rose et Dana Brooke qui sont mis en équipe, il n'y a pas une seule seconde où on se dit « Ah bah tiens, au fait, ces deux-là, peut-être qu'elles aussi, elles pourraient un peu tchatcher et dire « Ouais, mais nous aussi, on aimerait bien avoir un title shot. » Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Mandy Rose et Dana Brooke, elles évoquent même pas le truc, quoi. Elles n'en parlent jamais. Donc j'ai un peu du mal à piger ça... Pourquoi les filles cherchent pas à avoir un peu plus de compétition dans cette division? À vrai dire, on a rajouté cette ceinture par équipe, autant l'occuper cette ceinture. Alors qu'est-ce qu'ils attendent là? Il va falloir quoi là? Il va peut-être falloir enfin des montées de NXT, peut-être que c'est ça qu'il nous faut.
Je sais même pas. Non, le problème c'est que les montées de NXT, c'est de NXT.
NXT.
Et j'ai l'impression que c'est toujours le truc où on se dit ah il manque des gens, on va remettre des gens d'NXT, puis quand ils arrivent bah, en fait ça retourne en rond, puis enfin ce qui manque vraiment c'est une volonté de, j'ai l'impression, de vouloir donner du background au personnage de Raw. Et ce que je disais au début en fait, c'est autant j'ai l'impression qu'ils tentent quelque chose avec Orton, avec Alexa Bliss, tout ça, autant tout le reste, pouah, c'est un jour sans fin, quoi. fait se mettre à les mêmes personnages, ils évoluent pas d'un pouce, et t'as les mêmes rivalités, et voilà, et ça se répète.
Et ouais, bis repetita. Allez, on retourne backstage. On va avoir une petite interview vite fait de Charlotte Flair par Sarah Schreiber. Elle va cracher son venin hein, sur Lacey Evans, qui en fait, qu'elle considère qu'on profite actuellement pour profiter du nom Flair pour se faire un nom à elle. Elle dit que c'est quand même elle, la fille officielle de Ric Flair, et qu'elle connaît par cœur tous les coups de papa. Mais donc, elle sera prête à les utiliser face à Lacey Evans, et que même si elle veut la cloner en revêtant sa robe, elle ne portera jamais la couronne. On continue backstage avec Adam Pearce qui va rencontrer Ricochet. Alors, Ricky, la belle vie, est un peu de retour. Et il explique à Ricochet que ce soir, il va avoir un match et que ça pourrait bien lui permettre d'avoir un ticket pour le Royal Rumble. Alors, match de qualification ou pas, on n'en sait rien. En fait, c'est même pas expliqué. Là-dessus, il y a AJ Styles qui va apparaître et qui va un peu se moquer de Pierce face à tous les déboires et toutes les mésaventures qu'il a en ce moment avec Roman Reigns, et surtout du fait qu'il s'est lâchement désisté pour pouvoir placer Kevin Owens face au Tribal Chief. Ricochet, du coup, il dit que AJ Styles, toi, t'étais pas non plus très très fier hein, après TLC, vu comment tu t'es fait casser la gueule. Et il s'en va vers le ring en expliquant que moi, je vais vous montrer pourquoi je mérite d'être dans le Royal Rumble. Ça nous emmène dans un match entre AJ Styles et Ricochet. On va avoir là un gros match de catch, un match de 13 minutes, où là, les gars vont s'envoyer bien. Alors là, deux gars qui sont finalement dans un style assez similaire. Même si Ricochet est encore plus aérien, mais bon, il a la puissance de la jeunesse, comme j'aime à dire souvent. Mais AJ Styles, ça reste un vétéran, le mec, on peut lui mettre du powerhouse, on peut lui mettre du high flyer, lui, il continue, il déroule sa routine, il fait du mal, il est prêt à en finir. Il va tenter d'exécuter une première fois son phénoménal forearm, mais il va être accueilli par un beau recoil de Ricochet. Et il va y avoir, alors là, autant on a parlé du finish complètement botché entre Xavier Woods et Mates, autant là, on va avoir un finish que moi, personnellement, je le dis tout de suite, j'ai trouvé de toute beauté, parce que Ricochet va tenter d'en finir suite à son fameux recoil, mais du coup, il va tomber dans le coin du ring sur une intervention de Styles. Là-dessus, il est un peu sonné, mais il va quand même vouloir tenter son 450 splash, mais il va être rattrapé par Styles, qu'il va le balancer dans les cordes, et là, le Ricky, il va rebondir sur la troisième corde et se retourner. Alors, je ne sais pas comment vous l'expliquer en mode radio, mais vraiment, il va avoir le corps qui va se retourner parfaitement pour que Styles enchaîne directement sur un Styles Clash et finisse son match. 1, 2, 3, victoire de AJ Styles. Kyrias, est-ce que ce premier vrai match de catch de la soirée a répondu à tes attentes?
Ah, c'est beau du catch comme ça, oui. Ah oui, oui, oui.
Ah, ah.
À ce finish, effectivement, se demander où est l'improvisation dans ce qu'ils font, quoi. Mais c'était vachement bien, quoi.
Parfaitement exécuté, ce finish, pour le coup.
Enfin, ils ont dû le bosser, oui, mais voilà, c'est le truc, c'est que ça paraît si facile. Il passe vraiment d'une fluidité, c'était vraiment incroyable. Et du coup, non, c'était un bon match enlevé entre les deux, et plutôt content, après... Match, est-ce que l'entrée c'était un match de qualification? On sait pas, pas
plus. Ouais, on saura rien en fait. On n'en saura rien du tout là-dessus. Ça a été un petit peu le point un peu étrange de ce truc là, quoi. Papy?
Ouais, alors je pense qu'ils ont pas dit que c'est un match de qualification pour permettre à Ricochet d'aller quand même au Rumble en fait. Parce que si tu dis que c'est un match de qualification, ça voudrait dire que vu le résultat, il serait pas. Et pour le coup, autant Drew Gulak au Rumble. Il ne manquera pas, autant Ricochet, c'est quand même, même si c'est que Ricochet, quoi. Mais ça reste quand même un poil au-dessus de Gulak, quoi. Tu vois, t'as Gulak, t'as Ricochet, après t'as tous les mecs comme Arthrus, Lindsay Dorado, tout ça. Non, je déconne. C'était juste pour t'embêter, tonton. non, mais par contre, ouais, non, je vous rejoins par contre sur la qualité du match qui était vraiment sympa. On sent que là qu'on a deux gars qui savent y faire et puis qui prennent du plaisir à se faire des contres, et ils sont chacun contré un peu le finisher, parce que juste avant que le finish, il y avait aussi le contre du phénoménal forearm par Ricochet qui était plutôt joliment fait aussi. Donc c'est des gars qui savent y faire, à qui on a laissé du temps, ils se sont fait plaisir et du coup ça nous a fait plaisir aussi. C'était un bon match, et Et puis voilà, moi c'est je, typiquement le genre de match où je trouve que bah, ils sont pile poil à leur place, quoi, les deux gars. C'est-à-dire que AJ Styles est dans un rôle plutôt dominateur, mais mid-card, qui est logique vu que c'est plutôt un main eventer lui d'habitude. Et Ricochet, bah, il est limite de passer le cap du haut niveau, mais il est encore un poil en dessous. Et c'est normal, c'est comme ça qu'il va se construire un personnage. Moi, je préfère quelqu'un qui qu'on pousse pas trop vite trop haut et qui ait le temps de se construire bah, voilà, une histoire dans le main roster et pour après avoir sa chance pour une ceinture ou une poterie comme ça, quoi.
Ah bah, décidément, on est vraiment très souvent d'accord dans cette review jusqu'à présent parce que bah, moi aussi, j'ai trouvé que c'était un excellent match, un finish magnifique, quoi. Vraiment, c'était, comme tu l'as dit, Kyrias, une fluidité dans ce finisher-là, c'était... Je sais pas si ça a été un truc bossé au préalable entre les deux, mais vraiment, c'était vraiment génialissime, quoi, comment tout est parfaitement exécuté, quoi. Comment Ricochet rebondit sur la corde, comment AJ Styles le chope et le retourne sur le Styles Clash. Vraiment, j'ai vraiment trouvé ça, mais super chouette. Voilà, j'avais qu'un seul doute, c'était voilà, justement cette histoire de qualification, là, en me disant, mais merde, ça va le qualifier, pas le qualifier. Du coup, il perd le match, alors je me dis, merde, du coup, ça va peut-être le Ricky, ça va l'éliminer. Et puis bon, comme il ne s'est rien dit du tout à la fin, ni par les commentateurs, ni par qui que ce soit, je me suis dit, bon, bah, écoutez, on en est là, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça remet un peu Ricky dans la belle vie. Ça remet Ricky dans la lumière.
Et, la semaine prochaine.
Ouais. Et puis AJ Styles, voilà, il continue son chemin. Hein. Pour moi, un des gros hommes bien dangereux du Royal Rumble, non?
Ouais, AJ Styles, il est vraiment poussé fort. Là. Alors, je pense... Je le mets pas dans mes favoris perso, mais par contre, c'est le mec qui aura un programme à Magnol. Là, je vois pas comment il peut faire autrement. Il est vraiment, il est juste en dessous de Drew McIntyre, hein, et Orton à la limite. Bon, je compte pas le Finn parce qu'il est jamais vraiment bien placé à une place particulière dans la carte. Mais à part eux, je vois pas qui peut être au-dessus de Jesters en ce moment. Hein. Enfin, même depuis un bout de temps d'ailleurs.
Pour toi, Kyrias, AJ Styles, il fait partie des favoris du Rumble?
Ah ouais, c'est plutôt du haut du panier là qu'on tape là. Donc ouais, plutôt un favori. Ce serait pas mon favori, mais ouais.
Ah ouais, moi je l'ai depuis le début, je le dis, de toute façon, moi je le mets dans mon top 5 des favoris, de toute façon. Et puis je le sens bien bien fort en ce moment, le AJ Styles, quoi. Et puis voilà, il a une histoire aussi avec le Drew. Donc, quand même, je serais bien étonné. En tout cas, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit déjà dans le Final Four à la fin du combat, déjà. Et après, bah, on verra bien. Hein. C'est toujours les surprises du Royal Rumble. Allez, bah, messieurs. En tout
cas, un Drew et Bestal Samania, forcément, je pense que comme 99% des gens, je prends. Hein.
Ouais, je pense que de toute façon, c'est une affiche qui serait, qui mériterait, en tout cas. Bien, messieurs, c'est l'heure du Dirt Sheet, c'est l'heure du Miz TV. Nous avons John Morrison et le Miz qui donc nous avaient annoncé préalablement leur talk show habituel. Et ce soir, ils nous annoncent qu'ils vont avoir Goldberg comme invité. Alors, à ce moment-là, la musique retentit. Et qui débarque? Quelqu'un qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Non, ce n'est pas Goldberg, puisque Goldberg, finalement, on le voit assez régulièrement. On voit quelqu'un qu'on n'avait pas vu, en fait, depuis, rappelez-vous, un segment qui datait, puisque un segment qui se passait entre Kevin Owens et Chris Jericho. En l'occurrence, nous avons l'arrivée de Gilbert. Et oui, Gilbert est là. Alors, Gilbert, il est en pleine forme, et je vous avoue que ça m'a rassuré, parce que moi, je vous le dis tout net, je pensais que Gilbert était mort, puisque il y a un an et demi de ça, il y avait eu des reports pour nous dire qu'il avait fait une attaque cardiaque. Et donc, moi, je sais pas, dans mon esprit, j'avais décidé qu'il était mort, le pauvre. Donc, je m'excuse auprès de lui d'avance. Hein. Donc, Gilbert, il débarque, comme d'habitude. Voilà, il tousse, les mecs de la technique vont venir lui mettre des petites flammes devant le visage, vont l'asperger d'un extincteur. Il va finalement réussir à se frayer un chemin jusque sur le ring. Il va monter, il va faire toutes ces gimmicks, là, justement, voilà, en mode Goldberg. Mais là-dessus, il va être interrompu par une musique. Le bel homme est là. Oui, le bel homme est là. La musique est interrompue. Et là, on a un Drew McIntyre. C'est l'attaque des clones ce soir. On a un Drew McIntyre, mais enfin, en l'occurrence, un clone de Drew McIntyre qui a certainement pas vu une salle de muscu depuis 1987. Et voilà, on a un type gras avec une perruque qui a du mal à tenir sur sa tête.
Voilà, tout le segment va permettre en fait au Miz de faire comprendre que finalement, peu importe qui va sortir champion du match du Royal Rumble 2021, c'est lui qui a la mallette du Mister Money in the Bank et c'est lui qui est le next. Alors là, les amis, j'en dirai un mot après vous. Mon Kyrias, qu'est-ce que tu as pensé de cette attaque des clones?
Ouais, encore une fois, un petit peu longué peut-être, mais moi je me suis rigolé, j'ai bien rigolé quand même. C'était fun, changement, circonstances, voilà, ils sont amusés de la situation. Le Miz et Morrison passent toujours pour des débiles, ça change pas. Bon, c'était rigolo. Moi, j'étais bon public du coup sur ce segment. J'ai eu peur juste pour le pagne du clone de McIntyre, qui était largement bas. Et sinon, j'ai bien aimé ce segment.
Plutôt à l'aise le clone de Drew McIntyre, moi j'ai trouvé.
Ouais. Enfin voilà, c'était du coup vraiment, on était vraiment dans le comedy wrestling là. Il y a pas d'autre mot. Mais non, j'étais bon public du coup.
Pas de vie.
C'était, j'ai l'impression que c'est la période de la fête des raies au niveau de la WWE.
Ah oui,
parce que après Sami Zayn à SmackDown, là, on a eu le droit aussi au clone de Drew qui avait effectivement son clip dangereusement bas, qui a pu nous faire voir la face cachée de la lune. C'était toujours sympa à une heure de grande écoute. Et sinon, ouais, En fait, je vais reprendre un peu ce que dit Kyria, ça m'a pas dérangé. C'était effectivement le Gilbert, ça faisait trop longtemps que je l'ai pas vu, et puis que, il est à fond dedans, à passer la langue et tout, à faire la grosse parodie de Goldberg. Je sais pas comment les autres ont fait pour réussir à rester sérieux alors qu'il passait son temps à faire pendant tout le segment en fait. Mais voilà quoi, à un moment dans le segment, je me suis dit putain, ils ont vraiment rien à montrer ce soir à Raw, parce que ça rallonge la sauce à chaque fois et voilà, c'est malheureusement, c'est même si le segment en lui-même était plutôt sympa, j'ai senti que ça masquait mal l'absence d'intérêt de ce Monday Night Raw.
Bon alors moi les gars, je vais vous avouer un truc, hein. Moi je suis tombé dans la beaufitude la plus absolue, moi je me suis marré comme une baleine, moi j'ai trouvé ça bon, moi je me suis poilé en fait, j'ai trouvé ça, voilà. Bon alors revoir le Gilbert déjà, bon j'étais content qu'il soit vivant, et puis après j'ai cherché à savoir mais qui c'est le mec qui fait Drew McIntyre, c'est un officiel, c'est un booker, c'est un quoi, donc j'ai fait quelques recherches, il s'avère qu'en fait c'est un comédien de série aux États-Unis, c'est un mec qui apparemment pour les aficionados de série, c'est un gars qui a joué dans Numbers, voilà, et un mec qui m'a agréablement surpris parce que moi je l'ai trouvé assez drôle, je l'ai trouvé bien dans le truc. Je voyais en coin John Morrison qui était au bord quand même de d'éclater de rire parce que vraiment lui on sentait vraiment qu'il était au bord de la rupture le Morrison et puis voilà, j'ai trouvé que c'était plutôt bien joué de la part du Miz, son You're Next à la fin était bien savoureux, donc moi pour le coup voilà un segment qui est passé vraiment crème quoi.
Mais ils font ce qu'ils peuvent avec les absents en fait, hein, parce que t'as Goldberg qui est forcément absent parce que c'est Goldberg et Drew McIntyre qui... Enfin, il faut se rendre compte quand même que c'est en train de builder le Rumble sans leur champion du monde mais sans challenger quoi. Donc,
et ouais, c'est tout le problème.
Ils font ce qu'ils peuvent.
Ouais, et du coup avoir pensé à faire du comedy wrestling par rapport à ça, j'ai trouvé que c'était finalement une option pas si mal que ça, plutôt que nous balancer des sempiternels package vidéo pour nous dire attention, il y a un énorme match qui arrive. Le package vidéo, on y aura droit quand même, puisqu'on va avoir Drew McIntyre qui va venir faire un petit coucou au passage, quoi, pour expliquer que la WWE, c'est un cirque, que ce soir, on a vu des clowns, mais que lui, c'est un lion, et que le lion, ça mange des clowns. C'est bien ça, papy, hein.
C'est exactement ça. De temps en temps, il y a un petit accident, un lion peut bouffer un clown. Bon, j'ai jamais... C'est pas le genre de cirque où je vais d'habitude, mais bon, si en l'occurrence, pourquoi pas.
Bah, le lion fait des blagues. Du coup,
ouais. Après... À moins que vous regardiez des documentaires animaliers, que vous avez déjà vu un lion bouffer un clown, mais jusqu'à présent, j'ai encore rarement vu ça.
Et dans ce cas-là, on ne donne pas de nom au clown afin de ne pas s'attacher au clown. J'ai bien retenu la leçon de M. Raphaël.
Oh, il va être flatté. Allez, on continue, on quitte le dirt sheet. On va avoir rapidement Elias et Jackson Riker qui sont dans leur loge. Ils discutent de ce qui s'est passé la semaine dernière. Mais Elias, il va expliquer à Riker qu'il va falloir qu'il tabasse suffisamment Jeff Hardy ce soir pour qu'enfin il accepte the universal truth, la vérité universelle. Alors je ne sais pas si ça va marcher, on va voir ça un peu plus tard. Et un peu plus tard, en fait, c'est tout de suite, puisque il y aura justement dans l'intervalle le petit paquet de vidéos avec le Drew McIntyre, et on retourne sur le ring avec un match entre Jeff Hardy et Jackson Riker pour son premier match depuis longtemps, hein, je pense. Hein.
La semaine dernière.
C'était Elias la semaine dernière.
Non, il y avait eu Jackson Riker qui s'était battu juste avant.
Mais oui, t'as raison, il y avait eu deux matchs. Oui, c'était la soirée des restarts la semaine dernière. Exact. Oui. Exact, bah tu vois, j'avais déjà oublié. Alors là, on va avoir un match expédié, hein, puisqu'on va avoir un match qui va durer 3 minutes. Jeff Hardy va gagner ce match, mais bon, bien évidemment, il va être dominé quand même. Quasiment pendant ces 3 minutes, il va être quasiment dominé tout le temps par Jackson Riker. Il va quand même réussir à reprendre le dessus, coller son Jawbreaker, coller son Twist of Fate. Il va vouloir mettre une Swanton Bomb, mais au moment où il va vouloir passer sa Swanton, Elias va intervenir pour le faire tomber du coin. Disqualification. Victoire de Jeff Hardy. Après le match, Jackson Riker, il va s'engueuler avec Elias, quoi, en lui expliquant que bah il avait pas besoin de son aide, quoi. Et Elias, il va essayer plus ou moins de se justifier, mais pendant ce temps, bah pendant que ça discute, Jeff Hardy, il va s'élancer entre les jambes de Jackson Riker pour cogner Elias. Jackson Riker, il va esquiver à nouveau un Swanton Bomb, et finalement, il va terminer Hardy définitivement sur un slam. Voilà, victoire expéditive de Jeff Hardy par DQ. Kyrias, ça t'intéresse cette rivalité Riker, Elias versus Hardy?
Pour ça, oh dommage pour Hardy, ouais. Mais si, ouais, ça m'intéresse de voir comment ils arrivent à sortir Riker de là où il était de NXT, quoi. Et de son histoire. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent nous raconter, en fait? Ah, ça, Riker est meilleur que Elias. J'arrive pas trop à comprendre. Bon, par contre, ouais, Jeff Hardy, peut-être le mettre en pause de catch pur pour quelque temps, l'histoire qu'il se repose un peu, parce que j'ai l'impression qu'il a vraiment du mal quand même.
Papy, tu le sens fatigué, ouais. Jeff?
Bah, c'est surtout eux qui me fatiguent, hein, à remettre cette rivalité en route alors qu'on en voulait plus, et puis. Ouais, Jackson Riker, effectivement, je pense que c'est ça, c'est montrer qu'il est plus fort que Elias et faire une distension deux secondes après les armes ensemble. Je vois pas trop l'intérêt des masses, à part pour lancer Riker en solo, mais qu'est-ce qu'il va faire en solo tout de suite? C'est un peu compliqué à comprendre. Le seul truc qui m'a interloqué, c'est le fait que j'ai l'impression qu'il n'arrive plus à faire son Twist of Fate, Jeff Hardy. Parce que ça fait deux fois qu'il le finit en neckbreaker ou un truc comme ça. La semaine dernière, il avait déjà fait le même coup. Alors, ou c'est il le fait plus pour des raisons que j'ignore, ou c'est simplement que les autres savent pas le vendre et du coup partent du mauvais sens pour et ce qui fait que ça rate le Twist of Fate. Mais j'ai l'impression que ça fait deux semaines qu'il le fait plus, en fait, qu'il commence pour partir un Twist of Fate, mais ça part autrement. Ou alors je me souviens plus comment se fait la prise, mais pour moi ça se finit pas comme ça, un Twist of Fate.
Ouais, je sais pas, c'est Jeff Hardy, moi je suis un peu, je suis dubitatif, je me demande, c'est bizarre parce que voilà un catcheur qui a un univers que dans lequel j'aimerais bien qu'il s'oppose au Fiend, par exemple. Je crois qu'il en a déjà parlé un peu d'ailleurs de
oui,
ça.
Il a dit qu'il est intéressé, ouais.
Ouais, je crois hein, qu'il s'est montré intéressé par cette option-là. Et alors le problème, c'est qu'effectivement Jeff Hardy paraît de plus en plus cramé avec les années. Et que s'ils veulent faire une rivalité entre les deux, il va falloir que ça aille vite parce que plus le temps passe et plus ça paraît de plus en plus difficile pour Jeff. Et puis bah, comme le Fiend, là pour le coup, il est absolument pas lancé dans un truc par rapport à ça. Il est en plein marasme avec le Randy Orton, donc ça paraît un peu compliqué pour ça. Et donc j'ai l'impression que bah il l'occupe du coup le Jeff Hardy là, il est quasiment dans la low mid card, hein, on est là-dedans, là dedans là en ce moment hein, c'est, mais il continue à être utilisé, hein, il continue à avoir du temps d'antenne mine de rien, donc les officiels lui font confiance et puis ça continue, puis j'ai l'impression que c'est pareil, il faut occuper Elias et puis comme avec le retour du Jackson Riker, Alors, est-ce que ça va pas nous amener plutôt un split entre Jackson Ryker et Jeff et Elias? Je pense que c'est là-dessus hein, qu'on est lancé là.
Ouais, mais est-ce que ça a de l'intérêt un split alors qu'ils viennent de se rencontrer? Je pas trop.
Ah ouais, je dis pas que ça a d'intérêt, ça c'est sûr, hein, mais c'est vrai que ça me paraît assez assez faible en tout cas. Alors, j'ai un peu inversé des matchs et j'ai oublié en fait dans la chronologie de vous parler d'un match qui s'est passé précédemment de ce Jeff Hardy. C'est en l'occurrence le tag team match de la soirée qui était un six-man tag team match puisque comme on vous a dit au tout début, il y avait une interaction entre Riddle et le Hurt Business. Ils vont se retrouver dans le ring. Le Hurt Business va affronter la Lucha House Party avec Riddle dans un match qui va être relativement long, enfin dans les critères de Raw, c'est-à-dire un match de un peu plus de 12 minutes où on va nous présenter pendant tout le match encore une fois toutes les dissensions qu'il peut y avoir entre les tag team champions, en l'occurrence Shelton Benjamin et Cédric Alexander, qui voilà n'arrêtent pas de se prendre la tête avec les tags, se collent des relais à l'aveugle alors que l'un veut et l'autre veut pas. Cédric Alexander, il a décidé apparemment de montrer à Shelton Benjamin comment il faut faire, mais Shelton Benjamin, ça va pas lui plaire du tout puisqu'il va carrément balancer à un moment Cédric Alexander hors du ring. Du coup, MVP d'ailleurs va se mettre face à Shelton Cédric Alexander et va lui faire les gros yeux quoi, en disant mais qu'est-ce que tu fais là, ça va pas du tout là. Bobby Lashley lui aussi, il est pas très content de voir ses deux compères se tirer la bourre de cette manière-là. Du coup, il va enfin réussir à faire le tag. Alors que Lince Dorado et Riddle ont fait la majeure partie du combat, c'est enfin le Grand Metallic qui va rentrer dans le ring et il va se faire, mais alors, dégommer direct par le Bobby Lashley avec un gros spear, gros Hurtlock derrière. Victoire du Hurt Business sans trop de surprise. Après le match, Benjamin et Alexander, ils vont continuer à s'engueuler alors que Lashley va essayer un peu de les calmer. Du coup, il ne voit pas pendant ce temps-là qu'il y a Riddle qui arrive par derrière et qui va lui coller un gros super kick avant de fuir comme un lâche sur la rampe. Victoire, malgré tout, du Hurt Business. Et on continue à nous présenter inlassablement l'entente dysfonctionnelle entre Cédric Alexander et Shelton Benjamin. Alors, mon papy, on en a déjà parlé à plusieurs reprises de cette histoire entre Benjamin et Alexander. Ça continue.
Ouais, c'est chiant. C'est pas, je comprends pas pourquoi ils vont sur cette corde là et j'aurais, moi franchement, si j'avais été Bobby Lashley à la fin du match, j'aurais pris la tête des deux gars, je l'aurais fracassé l'une contre l'autre quoi, parce que ils ont fait chier pour tout le match. Et tu vois après le patron qui rentre sur le ring et puis qui te tue Grand Metallic, mais comme jamais là j'aurais été Grand Metallic. Je me serais pissé dessus rien que à partir du moment où Bobby Lashley aurait mis le pied dans le ring, tellement il est en furie. Mais ouais, non, ils sont chiants, les autres à se faire de la bisbille, on s'en fout. Pourquoi vous faites de la bisbille dans une équipe là? Alors, je vais faire la même théorie naïve que pour les Lucha Zelina Boys là, en disant j'espère que c'est pour au final qu'ils en sortent plus fort. Mais bon, j'ai de la crainte par rapport à ça là. Leur business, c'est un super truc et arrêtez de nous faire chier avec cette distorsion là. Nous, on veut qu'ils soient un Hurt Business et qu'ils fassent du mal aux gens quoi.
Kyrias?
Ouais, je trouve aussi que c'est une dissension qui arrive encore trop tôt, quoi. Pourquoi ne pas profiter d'un clan si fort avec tout l'or dans les mains, enfin presque tout l'or. Non, pareil. Je suis un peu, enfin voilà, je doute que ça que ce soit une bonne idée de les faire pliter de très trop tôt. Mais au moins, bon, on voit au moins qui sont les patrons, enfin qui est le patron sur le ring et qui est le patron en dehors. Donc c'est plutôt pas mal. Et après, bon, pour la Lucha House Party, ils sont un peu partout en ce moment. Ils sont à NXT aussi, pas mal. Ils sont dans le tournoi, non, dans le Destiny
ouais.
Road.
Ouais. Tout à fait.
Donc, pourquoi ils sont partout, je sais pas non plus. Mais ouais, non, c'était un segment, ouais, un match, ouais, le résultat était plié d'avance.
Ouais, alors après, voilà, bon, en mettant un peu à part cette histoire de mésentente entre Benjamin et Alexander, sur laquelle je me suis déjà exprimé à plusieurs occasions, et voilà, je ne vais pas revenir là-dessus. Moi, comme vous, je considère que c'est beaucoup trop tôt, que ça n'a aucun sens, et qu'on ferait mieux de continuer à garder le Hurt Business super fort et qui continue à casser des gueules tous les lundis, et qu'on pourrait très tout à fait se passer de cette
Je sais pas, je trouve que ça n'a pas de sens, moi, de toute manière, depuis le début. Parce qu'en plus, ça a commencé tellement vite, cette affaire entre Benjamin et Alexander. Et finalement, ils nous servent la même soupe tous les lundis. Donc, voilà, les gars, il y a un moment, il faut arrêter avec ça. Donc, non, ouais, j'ai du mal à comprendre. Après, j'ai trouvé que le match était pas mal. Bon petit match tag team. Et Lince Dorado a été largement en vue durant ce combat, quoi. À la différence de Grand Metallic, qui aura été là pour se prendre surtout la foudre par Bobby Lashley, mais qui, lui, pour le coup, sera que très très peu intervenu pendant le match. Mais c'était plutôt un match de plutôt bonne qualité, j'ai trouvé. Et ça passait bien. Pour moi, c'est passé crème, ce match, quoi. Allez, on arrive enfin à notre main event. Ça y est, on y est. Affronte Asuka, son retour en catcheuse. Quand même, ça y est, elle s'est rappelée qu'elle était catcheuse. On va avoir un match qui va durer pas loin de 12 minutes. Quasiment après le début du match, les lumières vont s'éteindre une première fois et se rallumer avec une petite pause, alors que Alexa Bliss était arrivée en rose. Et du coup, le t-shirt rose est passé au noir. Alexa Bliss paraît complètement possédée. Elle va assez, j'allais presque dire logiquement, mais elle a dominé quand même assez largement les débats contre quand même une Asuka qui est quand même championne d'Euro, quoi. Mais Asuka va pas donner sa part au chien. Elle va réussir notamment à contrer une tentative de mandible claw. Mais à ce moment-là, Alexa, elle va porter une grosse droite qui va coucher la japonaise par terre. Elle va tenter le compte de deux, ça va pas suffire. Alors là, il va y avoir une espèce de pause, elle va être dans une espèce de réflexion sur le ring, ce qui est un peu étrange à ce moment-là, et elle va attendre qu'Asuka se relève. Là, j'ai pas trop compris. Du coup, elle voit pas débarquer le spinning heel kick, une des grosses spécialités d'Asuka qui va lui arriver pleine face. Elle va se prendre un gros Shining Wizard aussi des familles, quoi. Mais elle est pas affaiblie, elle se relève un peu en mode je sais le rien du tout, moi aussi ce soir. Et finalement, elle va coller un Sister Abigail pour la victoire, clean. Et après le match, elle va se mettre à fixer la caméra. Il va y avoir un nouvel effet vidéo. Les lumières vont à nouveau plus ou moins s'éteindre. Le t-shirt rose d'Alexa Bliss va revenir. Et là, on la retrouve souriante devant la caméra. Et elle va prononcer le « Let me in » avec la voix du Fiend. Alors ça, je crois que le « Let me in », notre Firias, il a la voix parfaite pour nous faire l'imitation.
Let me in.
Voilà, c'est ça, c'est complètement ça. C'est bien d'avoir un chroniqueur avec une voix de basse, hein. Moi j'aime bien, je trouve que tout de suite ça rend bien. Alors Kyria, justement, pardon, ce main event.
Bah beau retour pour Alexa Bliss dans le ring, moi j'étais bien content de voir, c'est un personnage totalement différent de ce qu'elle avait, mais pourquoi pas, moi je suis bien rentré dedans. Le Sister Abigail était particulièrement bien fait. Ce match m'a relancé pour le Rumble d'Alexa Bliss, quoi. C'est une affiche que je reprendrai bien pour un plus gros event du type WrestleMania, quoi.
Papy?
Je suis pas exactement d'accord là pour une fois. Alexa Bliss nous a fait son mode Fiend, c'est-à-dire qu'elle se transforme, elle commence le match normalement, elle se transforme et puis quand elle se transforme, elle note celle que dalle jusqu'au finish où elle gagne. J'ai trouvé le Sir Abigail super lent. La prise elle-même est bien, par contre, elle reste trois plombes avec Asuka qui pendouille. Et avant de lancer son coup, mais Asuka, elle venait juste d'être, elle n'est pas sommée ni rien, tu vois. Asuka, c'est comme un chat, tu vois, quand tu attrapes par la peau du cou, c'est tu la penches et bien d'un coup elle bouge plus, Asuka, elle bouge plus pendant trois plombes et jusqu'au Sister Abigail. Mais ça dure vachement longtemps, j'ai trouvé. Ça m'a rappelé la mauvaise vieille époque quand John Cena, dès qu'il attrapait quelqu'un sur ses épaules, le mec était paralysé, quoi. Bref, tout le passage, enfin Alexa en mode finesse, que ça me plaît. Par contre, j'ai trouvé que c'était pas super bien, encore une fois, monté. Ça, la coupure, alors je rallume, je me suis changé, hop, je finis le match, recoupure, je me suis changé. J'ai pas trouvé ça super fluide, en fait. Après, c'est peut-être pour insérer son personnage, mais bon, du coup, je suis pas super emballé. Et surtout, Asuka, après avoir jobé pour mettre en valeur Lana, jobé pour mettre en valeur le retour de Charlotte. maintenant elle a le job pour Alexa. Enfin voilà, ça fait quand même depuis, je sais pas moi, depuis cet été qu'elle fout plus rien à ce cas. Moi, sincèrement, j'aurais jamais voté pour elle en tête de mes awards 2020. Hein.
Ah, ça c'est tata. Ça y est, ça commence. Allez, c'est parti. Eh ben écoute, moi, j'ai trouvé le match, en plus, hein, 12 minutes pour les filles, c'est quand même assez rare pour le signaler. Moi, ma surprise, finalement, ça soit qu'Alexa Bliss, elle gagne ce match clean. Je m'attendais pas vraiment à ce genre de fin. Je m'attendais sur le coup plutôt à une DQ. Je m'attendais à un espèce de truc bizarroïde à la fin. Mais vraiment, j'avais pas anticipé une victoire clean de la Little Bliss, quoi. Vraiment pas. Après, je suis d'accord avec toi, papy, sur le fait que effectivement, Asuka, là, en ce moment, on l'a fait jobber un peu trop. C'est la championne, et il faudrait peut-être la remettre un peu dans la dominance, là, parce que c'est vrai que là, elle perd peut-être un petit peu trop souvent à mon goût, et surtout qu'elle est double belt en ce moment, quoi. Donc, c'est un peu bizarre. Donc, c'est pour ça que. Moi, je pense pas que j'aurais booké ça avec une victoire clean. J'aurais organisé une DQ, un compte à l'extérieur. Enfin, je me serais démerdé, mais une victoire clean me paraît un petit peu trop gros pour commencer. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'ils veulent mettre, ils veulent rendre fort Alexa Bliss, tout simplement, là, et que là, c'était le but quasiment affiché des officiels. C'est voilà, il faut Alexa Bliss revient dans le ring, donc Alexa Bliss doit être montrée forte. Et bah, je crois que c'est ça le truc.
L'impact n'est pas le même. Hein.
Ouais.
Du fait d'une victoire clean, ça pose la personnage. Quoi.
Ouais, ah, ouais, je suis assez d'accord avec ça, mais je sais pas.
Bah, pour moi, la victoire clean, en fait, elle se négocie pas tant que ça. C'est plus le background, enfin, tout ce qui s'est passé avant pour Asuka qui est gênant, en fait. Tu vois, s'il avait roulé sur toute la division, puis d'un coup, elle prenne une défaite, tu te serais dit, oh putain, Alexa Bliss, elle est vraiment trop forte, son nouveau personnage. Mais là, Asuka, ça fait comme des semaines qu'elle a pas grand chose à se mettre sous la dent. Sa ceinture, elle l'a pas défendue depuis perpète, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, je m'en souviens plus. Et puis voilà. Alors, par contre, un truc qui est un poil dérangeant, enfin, on verra sur la durée, c'est que tu vois autant, enfin, vous voyez d'ailleurs, autant le Fiend, quand il est en mode Fiend et qu'il te fait, tu sais, son espèce de splash, là, quand il te coupe le mec en travers le ring. Bah, tu te dis, c'est un bus, quoi, le Fiend. Il est quand même super massif, quoi, donc je comprends que ça fasse mal. Quand c'est Alexa qui te fait le même coup du je te fais un truc qui coupe en deux le gars, ouais, faut vraiment suspendre très haut la crédulité. Il faut vraiment se dire qu'elle est vraiment invincible avec ce personnage, quoi, parce que c'est
le crossbody.
Fiend, quoi. Ouais, le crossbody, excuse-moi, je ne vois plus le terme, ouais, le crossbody.
Ouais, je sais pas. Je suis partagé en fait, moi, de toute façon, sur ce main event. Donc, j'ai trouvé le match de bonne qualité, mais voilà, moi, je suis un petit peu mitigé sur le finish, quoi. Donc, écoute, on va voir si ça va se répercuter dans nos top flop notes. Mon bon Kyrias, tu es de retour en 2021, donc tu vas avoir l'honneur immense d'attaquer et de nous balancer ton premier top flop note de ce Monday Night Raw.
Alors, pour ce top flop note, je vais mettre en avant dans mon top le beau catch en les personnes de AJ Styles et Ricky LaBelle.
Ah!
Parce que c'était le match le plus agréable de la soirée à regarder, tout simplement. Mon flop ira pour ma descente suite à l'opener et ce qui en est suivi. C'est-à-dire, je vais le donner à Peyton Royce.
Ouh.
Et ma note pour ce show, avec les problèmes que Papy a soulevés de cette période post-Rumble, moi, je lui ai donné qu'un 1,75.
Ouh.
Parce qu'on s'est quand même pas mal fait chier, quand même, je trouve.
Ouh. Donc, alors, ça, c'est du retour, les amis. Hein.
Ouais, non, à chaque fois, je donne des mauvaises notes, mais à chaque fois, je tombe sur des choses, je trouve, qui sont pas très, 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 très forts, quoi. Il n'y a pas de gros matchs intéressants. Les enjeux sont pas forcément là, quoi. Et ouais, non, il y a des problèmes, je pense, de personnel aussi, quoi. Donc ils gèrent comme ils peuvent, mais ouais, je sais pas s'ils gèrent au mieux, quoi.
Eh ben, pour son comeback, le Kyrias colle une corde à linge à Monday Night Raw, ça part fort. Mon papy, est-ce que tu vas sortir de la Kalachnikov, toi aussi?
Ouais, et en fait, bah déjà, je
Ouais.
vais. Non, mais en fait, je vais dévoiler ma note parce qu'en fait, avant même que Kira donne la sienne, j'ai pensé exactement la même note. Donc, je mets aussi un 1,75 sur ce show-là parce que j'avais épargné l'euro de la semaine dernière en me disant, bon, les pauvres, ils viennent d'apprendre que Drew est pas là, donc c'est galère à monter un show en vitesse avec une surprise comme ça. C'est pour mes Nementors, c'est chaud. Autant cette semaine, bah, l'excuse, elle tient plus. Alors, à moins qu'ils aient perdu Kisly et Sheamus, peut-être c'est sûr qu'ils aient tout misé, mais parce qu'on les a pas vus. Mais enfin, moi, je vais pas les pardonner toutes les semaines, et donc du coup, je les sac cette semaine parce que, bah voilà, c'est une redite de toutes les semaines précédentes. Ça tourne en boucle. L'euro, hormis deux trois segments originaux, le reste, c'est vraiment de la redite de chez redite de chez redite. C'est saoulant. En plus, j'ai pas eu le temps. Enfin, j'ai oublié d'en parler. On a eu pas mal de problèmes techniques, j'ai trouvé, dans la réalisation. Quand Drew McIntyre fait son segment micro, ben on sait pas pourquoi la caméra revient dans le Thunderdome alors qu'il n'y a personne. Même chose quand il y a la petite promo de Stephanie McMahon et Triple H pour les WrestleMania des années à venir. Ben la caméra passe sur un petit entrant de Alexa Bliss en plein milieu, on sait pas pourquoi. Quand tu as Asuka qui arrive dans le ring, ben d'un coup, ça filme. Il pose une question à Asuka, elle commence à parler, hop, directement, ça fait comment dire, un replay d'Alexa Bliss la semaine dernière. Et quand ça revient sur Asuka, elle finit sa phrase, donc en fait, on n'a rien compris ce qu'elle voulait dire. Alors, je sais pas si c'est un mec qui veut faire du freestyle en disant, ah ouais, je vais faire style, qu'elle a parlé pendant qu'on voyait autre chose. Ouais, mais bon, en même temps, nous, on voulait la voir parler, du coup, on voulait pas voir un ralenti de la semaine dernière, qu'est-ce qu'on s'en fout? Et donc voilà, donc ça m'a vraiment beaucoup gêné. J'ai trouvé que ce groupe pas bon en fait là-dedans. Il y a eu quelques segments sympas, mais il y a beaucoup beaucoup de daubes qui entourent ces segments sympas. Et sinon, pour mon top et flop, du coup, bah, comme tu as Kyrias a donné le top au Ricochet et Gestal, ça me permet de le donner à mon autre truc sympa de la soirée. Bah, c'est l'univers du film qui commence à comment dire à toucher un peu de plus en plus de choses. Donc qui touche Alexa Bliss, qui touche Randy Orton, et du coup, je trouve ça pas mal que ça soit un. Comme ils disent les jeunes, un univers étendu. Et mon flop, par contre, je ne sais pas à quoi le dire. Il y a tellement de trucs qui n'ont pas plu là-dedans que je ne sais pas. Je vais le donner à Alexander et Benjamin qui se foutent sur la gueule. Ça m'énerve, j'ai envie de les claquer. Donc voilà, mon flop, c'est pour leur gueule.
Bon, alors moi, avant de donner mon top flop note, je vais donner l'avis de notre jeune Raphaël
Yeah.
qui nous l'a laissé dans le Discord. Donc, son avis sur l'Euro du 18 janvier, c'était pas extra. Encore pas mal de segments pas très intéressants, notamment la feud œdipienne des Flair donnant un match trop long. Alors là, par contre, je suis un peu étonné, il n'a pas dû trop voir le timing. Les tag team féminins, c'est pas ouf non plus. Il a trouvé très drôle le dirt sheet et surtout le gars qui faisait McIntyre. Il nous parle d'ailleurs de la dernière apparition de Gilbert qui était donc au Festival of Friendship. Ah oui, d'accord, carrément, c'était carrément pendant le Festival of
À sa
Friendship
date.
qu'il est apparu. Donc ça date, ouais. Il a beaucoup aimé le Alexa Bliss Playground. Pour lui, Asuka a joué le jeu à fond en entrant dans l'univers. Par contre, le match en main event, il l'a trouvé très mauvais, trop lent, trop de trucs, trop de storytelling inutile. Et du coup, il donne son top à Bliss et Asuka dans le playground, mais il donne son flop à leur match. Voilà. Et sa note, c'est un 2,25. Un petit chouï meilleur que vous deux, messieurs. Moi, de mon côté, bah, moi, je vais rejoindre le Kyrias pour le top, puisque moi, je vais donner mon top aussi au match AJ Styles versus Ricky La Belle Vie. Voilà, un excellent match de catch, voilà, depuis le début de l'année. Bon, on n'est que le 18 janvier, mais en tout cas, pour moi, un des meilleurs matchs de catch qu'on ait vu à Raw. Vraiment, c'était nickel, c'était top, un super finisher, vraiment impeccable. Et mon flop, je vais le donner, j'aurais pu le donner à plusieurs choses, mais pour changer un peu de vous, par contre, pour le coup, je vais le donner à Retribution et je vais le donner à Mace. Alors voilà, Retribution est déjà
Oui.
suffisamment au fond du trou, est déjà suffisamment dans la low card pour une fois que leur leader en plus avait un peu rappelé quelques trucs, quelques antécédents et tout ça, qu'ils avaient fait un peu quelques efforts de mémoire. Eh ben, il a fallu qu'un de ces gonzes réussisse à complètement botcher son finish. Et ça, je me suis dit, mais non, mais là, les mecs, carrément, ils le font exprès, quoi. C'est pas possible, ils se foutent de notre gueule, là. À Retribution, ils ont vraiment décidé de les enterrer, quoi. Et si le mec, en plus, s'est pas catché par-dessus ça, il fera pas long feu à ce rythme-là. Donc voilà, donc mon flop va à Retribution et à Mace, avec une mention spéciale à Mace. Et puis ma note ne va pas être géniale non plus de toute façon, puisque j'étais parti pour mettre un 2, un simplement 2, et je vais rester sur un simplement 2. Donc voilà, un Monday Night Raw encore bien faible, surtout que après le SmackDown qui était plutôt de bonne qualité ce week-end, ça a fait du mal de repartir sur un show rouge aussi faiblard que cette semaine. Hein.
Push Cesaro.
Ouais, pousser Cesaro, ouais, mais malheureusement, Cesaro, il est dans le show bleu, il est pas dans le show rouge. C'est sûr que Cesaro, dans le show rouge, là, il dépareillerait pas, là.
Bah non, mais là, il y a tout qui... Enfin, je pense que tout SmackDown pourrait écraser l'équivalent d'Euro en ce moment. Hein.
Ouais, c'est fort possible. Allez, je comptais finir par la promo, et puis finalement, je me suis dit non, il faut qu'on finisse par de la controverse, il faut qu'on finisse par de la polémique. Et Kyrias, nous allons profiter de ta présence ce soir avec le papy, parce que le peuple de Catch-Up a besoin d'une explication qu'il attend oui. depuis la sortie des Awards. Allez voir, c'est en ligne. Parce que, voilà, tu as apparemment, pour certains chroniqueurs de Catch-Up, tu as commis un crime de lèse-majesté, mon Kyrias. On en est là, hein, puisque tu as osé ne pas nommer Bayley dans tes tops des catcheuses de l'année 2020. Et là... Eh ben, il faut que je te pose la question. Pourquoi ?
Je me suis senti mal quand il a fallu chercher 5 noms de catcheuses top pour cette année 2020. J'étais certain pour Asuka, et Sasha Banks, mais le reste, je me suis posé la question. Et effectivement, Bayley, j'ai pensé à elle, mais j'ai eu tellement de mal avec elle, avec son heel turn qui a pas pris avec moi, avec ses promos qui ne fonctionnaient pas pendant un long moment, et avec son booking qui était, pour tout dire, comment ils disent, legend, pas surpushé, ou je sais plus comment ils disent, sur notre Discord.
Overpushé, ou je sais pas quoi. Ou...
oui, voilà. Enfin bon,
bref. Disqué, mais je sais pas pourquoi.
Bref, ouais, non, le... Elle était survendue dans ses victoires grâce à Sasha Banks, qui l'aidait largement dans les principales feux. Donc, ça, pour moi, elle a fonctionné à partir du moment où il y a eu dissension avec Banks et avec le face turn de Banks.
À ce moment-là,
j'ai un peu plus compris le personnage de Bayley, qui a été dans son rôle modèle, là, du coup, qui était bien mieux, bien meilleur. Mais elle ne méritait pas pour autant d'être dans le top des catcheuses de 2020.
Là, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est sur le fait que le heel turn, effectivement, avait été long à prendre. Et que tu avais justement dit que voilà, les premières défenses de titre avaient été particulièrement ennuyeuses. Et ça, là-dessus, moi, je ne peux pas te donner tort. Quoi. Mais là, je vais laisser le papy, parce que le papy a des choses à dire.
Non, mais alors, pour le coup, je vais déjà dire que je ne suis pas non plus... comment dire, à dire que toute l'année de Bayley était parfaite. Effectivement, le début d'année était sur la fin du début de son heel turn, avec notamment une rivalité avec Lacey Evans qui n'était pas bonne du tout, mais bon, c'est aussi parce que c'est Lacey Evans. Quoi. On voit bien que tout ce qu'il touche, c'est de la dope. On ne peut pas faire de miracle. Merde. Mais par contre, je serais... la rivalité avec Sasha était très bien. D'ailleurs, moi, je leur ai donné la rivalité de l'année. Non, par contre, je leur ai donné le match de l'année avec le LNSL. Qui pour moi tutoyait les étoiles, mais Bayley, par contre, je trouve qu'elle a été quand même meilleure, certes avec Sasha, mais déjà avec Sasha Hill, quand elles ont été les deux les championnes par équipe, quand elles se baladaient partout sur tous les rosters, à une époque, je trouvais qu'elle tenait vraiment la baraque, elle toute seule, surtout qu'à Raw, à un moment, enfin à SmackDown plutôt, lapsus. On avait plus Roman Reigns et que du coup quand il a fallu trouver un main eventer, moi je trouve que c'est plus elle que Braun Strowman par exemple, donc voilà, donc je trouve qu'elle aurait mérité au moins d'être dans le top 5, peut-être pas en tête, les goûts effectivement et ses arguments se tiennent, mais quand je vois dans le top 5 Kairi Sane par exemple, qu'est-ce qu'elle fout dans le top 5 quoi, à part se faire latter la gueule, elle a rien fait, hein.
Ah, mais elle a donné de sa personne.
Ouais, bah d'accord.
Dans le peu qu'elle a fait, elle a donné. Hein.
Si on fait dans l'humanitaire, qu'est-ce que tu veux qu'on je dise, moi, je vais pas dire, laisse tomber.
Si on non, fait mais, dans je sais pas, Bayley, j'ai eu vraiment du mal avec elle. On nous l'a survendu pendant toute l'année et j'ai eu du mal.
Jaloux. C'est un rôle modèle.
Et puis bon, après, il faut dire que je suis sponsorisé. J'ai entre mes doigts un crayon, un stylo bille Aska.
Ah, carrément.
Ouais, je suis un ouf.
Oh, Aska, à la limite, pourquoi pas. Mais franchement...
J'ai eu avec des achats de DVD.
Oh. Ah.
Ça existe encore les DVD.
C'est des trucs que tu avais commandé sur le www.shop.com.
Je n'en parlerai pas plus.
D'accord, ok, monsieur a des secrets en plus maintenant.
Il n'a pas dit quel DVD. Ah. Hein.
Non, par contre, je vends des gouttes de sueur de podcasteurs célèbres.
Ah ouais ?
Ça t'intéresse.
C'est-à-dire, dis-moi en plus.
Ah bah, je sais pas, sur un podcast qui transpire la sueur.
Ah !
Je connais certains éléments qui revendraient bien leur sueur en petite flaque.
Ah, une petite fiole.
Une petite fiole, ouais.
Une flasque. Une flasque de sueur, du papy.
Ouais, bah, là...
Pleine de Covid.
Pleine de bronchonade.
Allez, bah, en parlant de ronchonnade, moi je connais plusieurs endroits sur lesquels vous pouvez venir ronchonner. Alors déjà, vous pouvez venir ronchonner dans les commentaires sur YouTube. Voilà, venez vous abonner, venez sonner la cloche, venez hurler votre désaccord sur nos notes faramineuses que nous avons données à ce Monday Night Raw. Voilà, n'hésitez pas, YouTube, on est là et ça marche bien. Vous pouvez bien évidemment nous rejoindre sur la communauté Discord de Catch Up, où vous pouvez discuter avec tous les chroniqueurs de la team. Vous nous retrouvez bien évidemment sur le site officiel catchup.lepodcast.fr, toutes les bonnes plateformes de podcast, Apple Podcasts, Podcloud, Spotify, Deezer et Google Podcasts. Nous sommes également sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Voilà les amis, je crois que j'ai fait le tour. Eh ben, c'est le moment des remerciements. Le roi Kyrias, je te remercie beaucoup pour ta première de l'année 2021.
Bah, c'est moi qui vous remercie de votre accueil encore.
Mon papy, j'espère que tu t'es bien amusé.
Oui, bah oui, je me suis bien amusé avec vous. Merci de me redonner le sourire après ces moments trop difficiles. Et puis plaisir de partager ce moment avec Kyrias, malgré ses goûts douteux. Ses goûts douteux.
Oh là, ça clash. Allez, c'est sur ces bonnes paroles qu'on va vous laisser. Ainsi s'achève cette édition de Monday Night Raw par la team Catch Up. Les amis, on vous fait des bisous. On vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. On vous fait les cordes à linge plein la face. Salut papy.
Salut tonton, salut Caras et salut à tous.
Salut Caras.
Salut tonton. Salut peuple de Catch Up.
Ouais, salut peuple de Catch Up.
Trampoline.
Et vous savez, par rapport au mec qui met des commentaires là,
FG,
t'as une théorie?
Ouais. Et ben franchement, ouais, j'ai une théorie. Et je pense que si vous suivez bien le fil,